Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui, intitulée « Le monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale », émission réalisée dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous recevons Annick Peters-Custeau, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Nantes, et Olivier Delouis, byzantiniste, chargé de recherche au CNRS, sur en fait les échanges dans le monde monastique chrétien entre Orient et Occident, témoin justement de cette, au début de cette unité, puis de la volonté de rester proche, de prier, je dirais, ensemble, même si parfois les séparations politiques, culturelles, puis eucharistiques, à partir d'un moment évidemment, ne permettent pas cette communion pleine. Alors, après un parcours historique au cours de la première émission, tant pour Byzance que pour l'Italie du Sud, qui est quand même byzantine, hein, au Moyen-Âge. Maintenant, quelques exemples aujourd'hui, justement, qui témoignent de cette volonté, puis de ces influences. D'ailleurs, je ne sais pas si elles sont conscientes ou inconscientes. Je crois que c'est une bonne question. Est-ce qu'on le fait parce qu'on peut pas, on ne sait pas faire autrement, ou on le fait dans la volonté de rester proche des autres? Alors, on va commencer par vous, Olivier Delouis.
Oui, alors je vais aborder le personnage de Saint Benoît de Nursie, le grand législateur monastique. Parce qu'on dit toujours que c'est l'Orient qui donne en matière monastique et c'est l'Occident qui reçoit, dans le domaine des idées, dans le domaine de l'idéal monastique. Et je me suis interrogé à l'inverse sur ce que Byzance avait connu du législateur d'Occident par excellence pour les moines, c'est Saint Benoît. Pour le situer chronologiquement, il serait né vers 480 et mort en 547. Alors, on a ainsi longtemps supposé une influence bénédictine sur la législation de l'empereur Justinien sur les moines. C'est vrai que Justinien a beaucoup écrit sur les moines. Et notamment, on a rapproché le chapitre 22 de la règle et trois lois de Justinien, qui parlent du réfectoire commun. Et on s'est dit, tiens, qui a influencé l'un ou l'autre? Alors, en fait, chronologiquement, aujourd'hui, la recherche a tranché et il semble que les lois justiniennes sur le monastère sont légèrement antérieures à la règle de Saint-Benoît. Et c'est davantage des échos de la législation byzantine qui se font entendre dans la règle de Saint-Benoît que l'inverse. Mais ce qui est moins connu, je crois que c'est la circulation, quelques siècles plus tard, de la règle de Saint-Benoît sur le mont Athos.
Il faut déjà peut-être rappeler que Justinien, c'est le VIe siècle.
Justinien, c'est le VIe siècle. C'est un contemporain, donc, de Benoît. Oui, ce qui est surprenant, c'est la circulation de la règle bénédictine sur le mont Athos. Et alors là, l'avancée, la plus belle découverte, elle a été faite, ça remonte déjà aux années 1950, où on a retrouvé des extraits de la règle de Benoît dans la fameuse règle d'Athanase Latonite, ou l'hypotypose, Athanase, dont on sait que c'est une figure centrale du monachisme de tradition cénobitique sur le mont Athos, et qui a fondé la Grande Lavra en 963. Et la régulation sur le portier, dans les règles d'Athanase, est une traduction grecque de ce texte latin. Alors, on se demande comment est-ce que Athanase a pu connaître la règle bénédictine. Alors, pour l'Athos, la réponse, elle est certainement liée à la présence de moines latins au Xe siècle. Il y a encore des moines latins à l'Athos, puisque l'hagiographe d'Athanase a dit que Athanase avait autour de lui des moines qui venaient d'Italie, de Calabre, d'Amalfi, d'Ibérie, c'est-à-dire de Géorgie, d'Arménie, etc. Donc il y avait vraiment un mouvement d'enthousiasme autour d'Athanase et des moines venant de tout pays et apportant sans doute leur tradition. Et puis surtout, sur le mont Athos, il y a eu un monastère latin. Le monastère des Amalfitains, qui est attesté pour la première fois en 984, mais il existait auparavant, et il a disparu seulement à la fin du XIIIe siècle. Et donc, nous avons là un exemple concret sur une montagne sainte monastique d'influence réciproque. Alors, hélas, ça ne va pas continuer, parce que après cette attestation donc au Xe siècle, il semble bien que la règle de Benoît n'ait plus été connue, utilisée par les moines byzantins, sauf quand plus tard, des monastères latins se sont installés en terre d'Orient.
Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe en Italie.
Alors, on passe en Italie, on passe à la règle de Saint Basile et son influence en Occident. Et en fait, on est dans une situation absolument orthogonale. à ce que Olivier vient nous exposer sur la règle de Saint-Benoît dans le monde byzantin, dans la mesure où, d'un côté, la règle de Saint-Benoît existe bien, alors que la règle de Saint-Basile n'existe pas, mais que, inversement, alors que les passages de la règle de Saint-Benoît qui ont pu avoir de l'influence sur le mont Athos sont quand même relativement rares et puis ça ne dure pas, en revanche, la règle de Saint-Basile a une influence extrêmement profonde sur tout le monachisme occidental à partir de sa traduction en latin. Alors je reprends. Pourquoi est-ce que la règle de Saint-Basile n'existe pas ? En réalité, on a un ensemble de compilations, enfin des compilations de textes sur le monachisme écrits par Saint-Basile ou attribués à Saint-Basile, des recueils qui, avec l'évolution, avec le temps, s'amplifient et se construisent par stratification. De ces textes-là, qui n'ont pas valeur de règle dans le monde oriental, même si évidemment on peut s'en inspirer, mais ce n'est pas une règle au sens bénédictin du terme, l'Occident a très rapidement connu une version latine, mais d'une compilation, de la compilation réduite, qu'on appelle le Petit Asceticon, qui a été traduite aux environs de 400 par Rufin d'Aquilée, dans un monastère vers Naples. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès le préambule, Rufin d'Aquilée expose à l'abbé qui le reçoit qu'il fait cette traduction en latin parce que lui, il est allé en Orient, qu'il a constaté que tous les monastères de Cappadoce suivent ces instructions basiliennes et que en Occident, c'est le chaos et l'anarchie et qu'il a bien l'intention de faire de ces institutions cénobitiques de Saint-Basile la norme commune de tout l'Occident. Donc il y a déjà une tentative d'unification autour de Basile, mais en Occident. La première mention de ce texte, donc le Petit Asceticon grec traduit en latin, la première mention comme d'une règle, avec le terme latin de regula, eh bien c'est dans le chapitre conclusif de la règle de Saint-Benoît. Donc c'est Benoît le premier qui a décidé que cette norme ascétique, eh bien c'était une règle. Alors, je ne vais pas continuer sur le cheminement et l'importance considérable en fait que au Moyen-Âge, ce qu'on appelle la regula sancti basilii a eu sur l'Occident. Je voudrais tout de suite aborder deux exemples tardif de la réimplantation en fait de la règle de Saint-Basile en Occident. Le premier exemple se situe au tout début du XIVe siècle et c'est un contexte très occidental qui l'explique. Vous savez que dans le mouvement franciscain, il y a des tensions considérables dès la fin du XIIIe siècle avec une branche de l'ordre franciscain qui réclame un retour à la spiritualité et on les appelle les spirituels. Or, pendant tout le Moyen-Âge, s'est construit l'idée que le retour à la spiritualité originelle du monde religieux, c'est le retour au monachisme grec. C'est le retour au père de l'Église, au père du désert. Et donc, dans le cadre de ce mouvement, un des franciscains spirituels qui s'appelle Ange Clareno, qui a appris le grec lors d'un long séjour d'exil, parce qu'il a été obligé à partir d'Occident en raison de la persécution que le pape Boniface VIII menait sur les spirituels. Donc, il est parti en Thessalie, dans le nord de la Thessalie, pour échapper à l'influence pontificale et au pouvoir pontifical. Il apprend le grec et en 1318, il trouve refuge à l'abbaye de Subiaco, qui est une abbaye vraiment assimilée à Saint-Benoît. C'est ça qui était étonnant et magnifique. Et là, il traduit la version la plus longue et la plus expansive des textes ascétiques de Saint-Basile, qu'on appelle le Grand Asceticon. Mais on voit bien que c'est pour rénover l'Église dans son sens spirituel. Le deuxième petit exemple, j'irai très vite, c'est au milieu du XVe siècle, la papauté décide de créer un ordre de Saint-Basile pour les moines italo-grecs et confie au cardinal Bessarion, qui est d'origine byzantine, hein, qui est un moine et pasteur évêque byzantin, le pape confie au cardinal Bessarion la construction de cet ordre de Saint-Basile, ce qui veut dire d'abord rédiger une règle. Et Bessarion pratique une méthodologie étonnante, c'est-à-dire qu'il compile des extraits qui sont tous tirés de l'Asceticon de Saint-Basile, de l'œuvre ascétique basilienne et pseudo-basilienne, mais il l'organise en des chapitres largement inspirés de ceux de la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire qu'il place une chaire basilienne sur un squelette bénédictin. Et cette règle-là, qu'on appelle la règle de Saint-Basile, deuxième version en fin de compte, est là pour unifier les pratiques des monastères italo-grecs qui restent encore actifs en ce milieu de XVe siècle.
Merci beaucoup. Alors, des exemples très frappants, hein, des deux modèles, Basile du côté oriental et Benoît du côté occidental, qui sont les modèles du monachisme, et on voit la réception des deux côtés. Alors, on fait une pause là pour aller dans l'église. Pas n'importe laquelle, je veux dire, parce qu'elle a un rapport direct avec ce que vous venez de dire, Annick. C'est-à-dire la Grotta Ferrata. Et c'est l'ensemble Cappella Romana qui interprète un chant de communion du monastère, justement, Saint-Basile le Grand de Grotta Ferrata. De la liturgie enregistrée à la Grotta Ferrata, au monastère Saint-Basile, donc c'était l'ensemble Cappella Romana. Annick Peters-Custo, un mot, où sommes-nous?
Ah, Grotta Ferrata, on est vraiment à côté de Rome. On est dans la dernière fondation monastique qui a été faite autour de l'an 1000 par un des plus grands saints moines italo-grecs, donc du monde byzantin, mais en Italie du Sud, qui est produit le Moyen-Âge, Nil de Rossano.
Et il faut dire que c'est toujours actif.
Ah oui, c'est un
ça.
Monastère.
Et l'enregistrement est récent. Et quand on entend ça, on est en plein dans la tradition byzantine. Hein,
absolument.
C'est, bon. Pas dans la communion byzantine, mais dans la tradition, enfin,
absolument.
La suite de la communion byzantine. Et il faut dire aussi que dans l'Italie du Sud, il y a encore des églises et des monastères qui remontent à ces époques-là où le christianisme byzantin était présent et sont tantôt, je dirais, de confession orthodoxe, tantôt de confession romaine, mais de rite byzantin. Olivier. De lui, un exemple encore de cette interférence.
Oui, je vais continuer à m'intéresser un petit peu à Benoît, à Saint-Benoît, à Byzance, parce que bon, j'ai évoqué tout à l'heure des petits morceaux hein, de la règle de Saint-Benoît à Latos. Ça serait presque anecdotique. En fait, il n'y a pas, c'est un échec. Il n'y a pas de transmission de la règle bénédictine à Byzance. Mais c'est largement compensé, cela, par l'entrée du saint dans le sanctoral byzantin, à partir du, au moins, je dirais à partir de façon très diffusée à partir du IXe siècle, mais ce succès, Benoît le doit au dialogue du pape Grégoire le Grand, au VIe siècle, donc Grégoire le Grand, qui appartenait aux hommes les plus cultivés de son époque, pape bien connu, et qui rédigea dans ses dialogues un chapitre sur la vie de Benoît. C'est en fait le livre des dialogues de Grégoire le Grand. Et évidemment, ce texte est en latin, il n'est pas pendant longtemps connu des Grecs, mais il va être traduit en grec par le pape Zacharie, hein, donc c'est de 741 à 752, c'est le pontificat de Zacharie, c'est à lui qu'on attribue la traduction en grec des dialogues de Grégoire. Alors, on retrouve ce que disait Annick tout à l'heure, la motivation de Zacharie pour traduire en grec une vie latine de Grégoire le Grand Benoît n'est pas tout à fait connue, mais on pense qu'il y a là une volonté de renforcer justement le lien qui pouvait exister entre le siège romain et l'Italie hellénophone. Et alors, l'influence des dialogues traduits par Zacharie fut grande dans le monde byzantin. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Grégoire, d'ailleurs, on l'appelle Dialogos en grec, hein, d'après le nom de cette œuvre. Et l'éditeur de La vie grecque de Benoît, qui a été publié il y a quelques années, a utilisé pas moins de 30 témoins manuscrits, dont un grand nombre de bonne époque, de haute époque, qui ont été recopiés avec assurance hors d'Italie. Donc, on traduit du latin en grec, ce n'est pas seulement pour les communautés hellénophones d'Italie du Sud, mais cette vie de Benoît va voyager vers Byzance, et l'œuvre du pape Grégoire est d'ailleurs remarquée pour sa qualité par Photios dans sa bibliothèque, signale, hein, il dit, je le cite, « Zacharie, transposant en grec les utiles connaissances limitées au seul domaine du latin, en accorda généreusement le profit au monde entier. » Et donc le patriarche Photius, là, est conscient du rôle de transfert qui a été réalisé par Zacharie, qui a notamment donc traduit la vie de Benoît pour le plus grand profit des lecteurs byzantins.
Et on voit là qu'on avance dans le temps, puisque Photius, c'est le 9e siècle, hein, et on voit que la présence est toujours là. Absolument. Dans la vie de l'Église. C'est pas une tentative comme ça qui vient. C'est ça qui est très important, c'est que ça se maintient. Et à des périodes difficiles, parce que après l'iconoclasme, évidemment, il y a beaucoup de tensions politiques et entre l'empereur aussi et le pape, pour différentes raisons. Donc ce n'est pas une période facile pour garder de part et d'autre les attestations de la tradition de l'autre, si je puis dire. Annick.
Alors je vais compléter sur ce bilan en fait du culte, puisque la géographie c'est ça, c'est la base du culte de Benoît dans le monde byzantin, avec un focus particulier, ce sont des hymnes grecs qui ont été composés par le fameux Nil de Rossano dont je viens de parler autour de Grotta Ferrata. Nil de Rossano qui dans ses pérégrinations en Italie du Sud est passé dans l'abbaye du Mont Cassin, qui a été fondé par saint Benoît au VIe siècle. Et lors de cette visite, il est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les moines bénédictins. Et il compose, dit son hagiographie, il composa des hymnes grecs en l'honneur de saint Benoît. Or, il se trouve que l'abbaye de Grotta Ferrata conservait un exemplaire unique du manuscrit de ces hymnes, composé donc, disons, dans les années 985. Ces hymnes suivent trait pour trait les règles de la composition hymnographique byzantine de l'époque, et décrivent la vie et l'œuvre de saint Benoît à partir de cette fameuse traduction grecque du livre 2 des dialogues de Grégoire le Grand, dont Olivier vient de parler, et qui a été faite au milieu du 8e siècle à Rome, et dont le manuscrit le plus ancien, le Vaticanus Grecus 1666, était à Grotta Ferrata. Alors, Benoît, dans les hymnes de Nil, revêt la figure qu'il a dans les dialogues, c'est-à-dire un saint ascète thaumaturge, une figure donc de saint moine qui correspond autant à la tradition occidentale qu'à la tradition orientale, elle est très unitaire. Mais Nil rajoute la dimension de nomothète, de législateur monastique, pour tout l'Occident, qui est proprement la dimension nouvelle que Benoît a acquise à partir du 9e siècle, en raison de la réforme monastique des empereurs carolingiens, en tête desquels Louis le Pieux, qui a imposé la règle de saint Benoît à tous les monastères de l'Empire carolingien, et qui en a donc fait, qui l'a donc créé comme nomothète de l'Occident. Et donc, au Xe siècle, à la fin du Xe siècle, quand Nil évoque Benoît comme le grand nomothète des Occidentaux, des Latins, ça veut dire qu'il a intégré cette dimension universelle pour l'Occident de Benoît comme père des moines. Ce qui est intéressant, c'est que Nil reporte dans ses hymnes cette dimension de législateur monastique qui est proprement occidentale, et dans le même temps, il lui associe pour l'Orient la figure de Basile. C'est-à-dire que Nil crée ce binôme en disant que Benoît est pour l'Occident ce que Basile est pour l'Orient, c'est-à-dire le père des moines.
Et Nil donc de Rossano, on est en Italie du Sud, c'est la Calabre, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Mais quand il écrit, il écrit au Mont Cassin, on est toujours en Italie du Sud, on n'est pas très loin de Naples en réalité.
Très bien. Alors, on va avancer dans le temps aussi, puisque le temps ne permet pas d'aller très loin maintenant. Olivier de Louis a fait une période importante, capitale, je dirais, pour l'orthodoxie byzantine.
Oui, alors vous savez peut-être que les Byzantins, vous savez sûrement, Alexis, que les Byzantins avaient le goût des anthologies, des extraits, hein, des encyclopédies. Et la vie de Benoît a été reprise donc dans les antilégies spirituelles byzantines, et notamment dans une des plus célèbres, l'Evergetinos, composée par Paul de Levergetis au XIe siècle, et qui a reçu d'ailleurs récemment une traduction française. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'on trouve dans l'Evergetinos des passages de la vie de Benoît très intéressants. Quand Benoît voit l'âme de sa sœur morte monter sous la forme du colombe aux cieux, quand Benoît voit le monde comme ramassé sous un rayon de soleil, ou quand deux moines ont connaissance dans une vision de la mort du saint et du sort, du sort qui l'attend après sa mort. Alors, ce que je voudrais signaler ici, dans le temps qui nous reste, c'est que l'épisode de la vision du monde entier comme rassemblé dans un seul rayon de soleil, eh bien, il a connu une vision, une fortune singulière, puisque dans la première de ses triades pour la défense des saints hésychastes, le théologien Grégoire Palamas, en voulant démontrer comment les saints, par une purification dès leur séjour sur terre, peuvent faire l'expérience de la lumière divine, prend ce passage de la vie de Benoît à l'appui de sa démonstration. Je vous le cite. « Un autre saint, dit-il, parmi les plus parfaits, a vu l'univers entier comme enveloppé par un seul rayon de ce soleil intelligible, bien que lui non plus n'ait pas vu l'essence et la mesure de ce qu'il voyait, mais seulement la mesure à laquelle il a pu s'y rendre lui-même réceptif. Par cette contemplation, par cette union supra-intelligible avec cette lumière, il n'a pas appris ce qu'elle était par nature, mais il a appris qu'elle existait réellement. » Alors, le nom de Benoît, notez bien, n'est pas noté, mais c'est amusant de voir dans la marge du manuscrit Coilin 100 à Paris qui contient l'œuvre de Palamas, qu'un commentateur anonyme a écrit dans la marge « Benedictus », Benoît ayant reconnu l'extrait de la vie de Benoît dans ce traité théologique de Palamas.
Merci beaucoup. Et c'est donc l'hésychasme qui vient confirmer un peu l'hésychasme, une période pas facile pour la réception en Occident, pas du tout même. Et on voit quand même que Palamas, qui est, je dirais, le premier nom dans l'hésychasme byzantin, lui-même lit et cite ces textes qui, en fait, sont inspirés de la vie du moine modèle de l'Occident. Voilà un témoignage encore pour cette émission, donc qui était consacrée à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et pour les échanges qu'il y a, et cette volonté directe ou indirecte des chrétiens des deux côtés, si vous voulez, de garder les uns et les autres les traditions respectives. À Nick Peters Custo, Olivier Deluy, un grand merci. C'était donc le monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.